Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 29 décembre 2020 et je voudrais quelque peu continuer une analyse aussi synthétique que possible sur la rencontre entre Yosef, vice-roi d'Égypte, et Yehuda, représentant de ses frères. Nous savons que Yosef avait atteint l'unité entre son extériorité de vice-roi d'Égypte, d'homme politique, d'homme économique, et son intériorité, fils de Jacob. Nous savons que Yosef a réalisé l'unité entre lui et son père. Et que lorsque Jacob a compris, en fait, par les cadeaux qu'il a reçus, les cadeaux qu'il a reçus sont évidemment glorieux, et le texte au niveau de la lecture du Pshat dit qu'il a reçu à travers particulièrement 20 ânes et 20 ânesses. Alors pourquoi c'est très intéressant? D'abord parce que, évidemment, on sait que le Mashiach va chevaucher un âne. Et l'âne étant lié directement à la matière, puisque Hamor, en hébreu, qui signifie âne, signifie aussi Chomer, matière. Et donc, le Mashiach ben David, qui va surmonter cette âne, va, en fait, intégrer le monde de la matière, c'est-à-dire que les forces de Ben Yosef vont pénétrer en lui. Il va être, comme on a dit l'autre fois, et comme a dit le Rabbi de Lubavitch, Zichrono Tzadik Libracha, il va être, dans un premier temps, Ben Yosef, économiste, politique, homme social, puis, dans un second temps, il va rentrer dans le Pardès et il va sauver, à travers Israël, l'humanité tout entière. Et pourquoi c'est très important, ces 20 ânes et ces 20 ânes? Parce que d'abord, âne et ânes constituent le zivouk, constituent l'union entre le masculin et le féminin. Mais surtout, il faut savoir que les maîtres du secret, les maîtres du Zohar, ont bien spécifié un point très important sur les 127 années qu'a vécu Sarah et Manon. Sur les 127 années, dit le Zohar, les 100 premières années, le chiffre 100, est lié directement à la Mida de Keter. Le Keter étant la couronne. C'est-à-dire, véritablement, elle avait atteint la capacité de comprendre le plan de Dieu. Puis, dit le Zohar, 20 du côté du Chesed et 20 du côté de la Gvoura. 100 plus 20 plus 20, ça fait 140. Et 7, ce sont les mondes d'ici-bas, y compris, bien entendu, la septième sphira du bas, qui est la Malchut, qui est évidemment le monde de la matière dans lequel va se révéler le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Alors, pourquoi c'est très important? Parce que Yaakov, qui évidemment était relié directement à sa grand-mère Sarah et à son grand-père Abraham, eh bien, Yaakov pour porter en lui l'union des contraires, l'union du masculin et du féminin, si vous voulez, l'union des ânesses et des ânes. Et à partir de ce moment-là, il a compris tout à fait que Joseph était porteur, en fait, de la Géoula Shelema. C'est pour ça qu'il est parti serein en Égypte. Il avait compris que Joseph avait acquis les fondements mêmes des structures économiques et des structures politiques qui allaient se développer au cours des civilisations, des millénaires qui vont suivre, mais surtout, il avait compris, Joseph, qu'il avait en lui, grâce à l'union qu'il a fait en lui, qu'il a fait dans sa propre intériorité, cette union avec l'extériorité, et donc il avait donné un sens à toute l'histoire. Et donc il avait compris qu'il portait en lui les fondements même de l'économie telle qu'elle serait au temps du Mashiach ben David. Alors on va prendre un petit exemple pour expliquer cela, parce que c'est très très important. On a l'impression que à la fin de la paracha Vaïgash, que Joseph a reconstitué la féodalité. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Joseph, d'abord, a été selon la volonté du peuple. C'est le peuple qui est venu lui dire, on veut tout simplement donner notre terre à Pharaon, c'est-à-dire c'est eux qui ont annoncé les nationalisations. Les nationalisations ne sont pas venues d'en haut, de Joseph ou de Pharaon, mais d'en bas du peuple. Deuxièmement, et c'est un point fondamental, Joseph n'a pas demandé 80% de la richesse issue des récoltes, mais seulement un cinquième. Un cinquième, et non pas quatre cinquièmes. C'est-à-dire véritablement que chaque paysan qui était en fait dans une situation de dépendance par rapport à l'État, par rapport à Pharaon, mais ils avaient suffisamment de liberté, suffisamment d'autonomie pour pouvoir produire selon leurs propres besoins et selon leurs propres capacités. 4/5 de leur production leur était acquis. Et ça, c'est très très important. Nous sommes très très loin de la féodalité. Le droit féodal était fondé sur non seulement l'acquisition des terres, mais surtout sur la féodalisation des serfs. C'est-à-dire que dans l'empire féodal, les serfs n'étaient pas libres. Ils étaient pris par un faisceau de taxes, un faisceau d'impôts, qui font que, véritablement, ils n'avaient pas la capacité de se développer. Et au niveau des prêtres, eh bien, Joseph a été obligé de respecter la volonté des prêtres et la volonté de Pharaon de ne pas nationaliser les terres des prêtres. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver d'ailleurs, entre parenthèses, dans la féodalité, où véritablement les domaines, l'économie de domaines, domaniales fermées, ecclésiastique, nous sommes dans le monde chrétien, eh bien, n'appartenait pas au Seigneur. Ça appartenait à l'Église. L'Église était extrêmement riche sous la féodalité. Alors, si vous voulez, d'un côté, Yosef a donné la possibilité, à travers les nationalisations, de nourrir le peuple, de nourrir les Égyptiens, qui, eux, avaient, dit Rashi, une mentalité d'assisté, une mentalité servile. Mais il leur a donné suffisamment de liberté, d'autonomie, qui leur permettront de se développer, non seulement au niveau individuel, mais au niveau collectif. C'est pour ça qu'il a fait, dans un second temps, une sorte de répartition géographique des populations. mais non pas famille par famille, mais ville par ville. Et il a maintenu, si vous voulez, la cohésion sociale à l'intérieur de chaque ville. Et il a permis à chaque ville de se développer en tant que telle dans un autre territoire. Alors, évidemment, ça paraît, si vous voulez, surprenant pour une raison très simple. C'est que pourquoi avait-il le besoin de le faire? Parce qu'il savait très bien, en fait, que l'homme attaché à la terre avait énormément de mal à se surpasser, à se dépasser, parce qu'il était pris par sa propre histoire, il était pris par sa propre tradition. Et ce qui a fait, si vous voulez, la force des États-Unis d'Amérique au 18e, 19e siècle, c'est que c'était des immigrants, que c'était véritablement des non pas des propriétaires terriens, non pas des personnages, des collectivités attachées à leur terre depuis 1000 ans ou depuis 1500 ans, mais au contraire, des populations qui étaient en mouvance, en dynamique, et qui devaient s'adapter à chaque mouvement nouveau de population par rapport à leur terre qui leur a été attribuée. Alors, Yosef avait la capacité donc de comprendre ce qui allait se passer à l'époque du Machiav Ben David. Aujourd'hui, par exemple, le problème de l'immigration en Europe est un problème extrêmement grave. Pourquoi? Parce que ce sont d'abord des familles, ce sont même des petites collectivités, mais qui vont aller là où elles peuvent, selon non seulement les règles du marché, mais les règles de sociétal, mais seulement tout le problème, c'est qu'elles vont garder leur culture ancestrale et elles vont former une sous-culture ou même une contre-culture. C'est-à-dire, ce sont des populations qui ne vont pas, entre guillemets, s'assimiler à la nation, mais qui vont créer à l'intérieur de la nation une autre nation. Donc là, c'est un phénomène, si vous voulez, extrêmement dangereux, extrêmement grave aujourd'hui, parce que c'est un phénomène qui peut tout simplement amener à la mort des civilisations. Et Yosef l'avait bien compris. C'est pour ça que, pour maintenir, si vous voulez, les Hébreux dans le territoire de Goshen, dans le territoire de Ramsès, il fallait absolument montrer aux Égyptiens que les Hébreux aussi étaient des, si vous voulez, des immigrants, comme le sont et comme le seront les Égyptiens, et que ce n'est pas mal en soi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les Européens d'aujourd'hui, normalement, devraient apprendre à se dynamiser, à bouger de terre en terre, de région en région, d'une manière extrêmement mobile, afin de pouvoir comprendre le phénomène d'immigration. Or, c'est pas du tout ce qui se passe. La population française, par exemple, est une population, entre guillemets, assise sur son territoire, assise sur sa terre. Elle n'acceptera pas de changer comme ça de région et de terre en tant que, non pas individu, ça oui, mais en tant que société. Ce n'est pas un phénomène sociétal en France de pouvoir bouger. Et ça, si vous voulez, si je reviens au temps, pour finir au temps de Yosef, Yosef avait bien compris que la rencontre qu'il avait avec Yehuda était une rencontre non seulement d'extériorité, parce qu'il fallait donner à Yehuda et à ses frères et à son père un territoire, il fallait donner une économie, il fallait les nourrir, mais aussi d'intériorité, parce qu'il fallait donner la capacité à ses frères de se développer, de se multiplier, et cela en toute quiétude, dans une économie qui était une économie prospère. Et c'est pour cela que les Égyptiens ont remercié Yosef en disant « Tu nous as donné la vie ». Alors les Chachamim, les maîtres du Sod, disent que de quelle vie on parle. Alors beaucoup parmi eux disent qu'il s'agissait de la vie spirituelle avec la circoncision, qu'ils ont reçue, eux les Égyptiens, et de la vie matérielle qu'ils ont reçue à partir de Yosef. C'est-à-dire que cette alliance avec Yosef était en fait une alliance avec Dieu. Et donc, la bénédiction que Yaakov Avinu a donnée à Pharaon se faisait avec l'accord de Dieu. C'est pour ça que la Shrina était présente en Égypte, présente dans la famille des patriarches, et elle était véritablement protectrice, en tout cas, certainement au début, de la dimension croissance, de la dimension développement de la famille d'Abraham en Égypte. Merci beaucoup.